France Inter, 7h.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le vendredi 18 janvier. Bonjour à tous, bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, grand débat contre Acte 10. Emmanuel Macron poursuit le dialogue à Souillac dans le Lot. Les Gilets jaunes, eux, se préparent à descendre dans la rue pour le 10e samedi consécutif en pleine polémique sur les violences policières. Les autres titres, Agnès.
Solferino, c'est fini. Vive Ivry-sur-Seine, où le nouveau siège du Parti Socialiste est inauguré ce matin. Les jours comptés du président soudanais après une nouvelle vague de manifestations violemment réprimées. Le dépistage organisé du cancer de l'utérus et puis le retour de la star du rond.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50, la comédienne humoriste Nora Hamzaoui. Elle est à l'affiche de Double Vie d'Olivier Assayas. Elle sera au micro d'Ali Badou. 8h20, un philosophe qui voit dans la crise des Gilets jaunes une occasion rêvée pour rebondir dire politiquement. Bruno Latour est l'invité du grand entretien de la matinale. Vos questions, le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter. Combien seront-ils demain? C'est la question récurrente depuis 10 semaines maintenant.
Après un essoufflement du mouvement durant la période de Noël, la mobilisation est repartie à la hausse. 84 000 gilets jaunes dans les rues samedi dernier. Et une mobilisation qui a changé de forme. Fini les ronds-points et les péages occupés dans la région de Marseille. Le risque d'amende est trop fort. Les gilets jaunes avaient donc rendez-vous hier soir dans un endroit tenu secret jusqu'au dernier moment pour décider des prochaines actions. Reportage signé Olivier Martoc.
Si vous n'êtes pas du coin, trouvez le petit port dans Suez-la-Redonne est un vrai casse-tête. Thierry de Chaume, le coordinateur pour la Côte Bleue, a donné rendez-vous aux figures du mouvement sur le parking. Il est très remonté après la visite des gendarmes et la menace d'une amende de 3000 euros pour occupation illégale du domaine public. Il a fait passer le message, plus aucun rond-point aujourd'hui n'est occupé dans sa zone.
Intimidation et la menace au porte-monnaie a très bien fonctionné. Quel gilet jaune aujourd'hui pour exprimer une opposition politique accepte de se voir risquer d'être condamné à 3000 euros d'amende? C'est plus possible. Donc en fait, la stratégie a parfaitement fonctionné, celle du gouvernement. Donc ça veut dire aussi que maintenant, exprimer une opposition politique, c'est financièrement interdit.
Quant au grand débat, pour les gilets jaunes présents, ce serait un leurre.
C'est avant tout pour nous donner l'impression qu'on s'occupe des problèmes. Après, à chacun d'y croire ou pas. Jusqu'à présent, j'étais en retrait. Mais maintenant, je les rejoins parce que je sens bien le jeu de dupes qui est en train de se jouer. Et c'est pour ça que je serai dans la rue samedi.
Le mot d'ordre des gilets jaunes de la Côte Bleue a le mérite d'être clair. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
Le droit de manifester en France, que dit la loi? On vous l'explique sur franceinter.fr. Manifestation donc prévue à Marseille demain, mais aussi à Toulouse, Lille, Caen, Lyon, Rouen, Strasbourg, Rennes et dans des villes plus petites comme Saint-Jean-de-Luz qui connaîtra demain sa première manifestation depuis le début du mouvement. Et à la veille de cet acte 10 se pose avec acuité la question des blessures dues aux tirs de balles de défense. Près d'une centaine de blessés graves depuis le début du mouvement. Le défenseur des droits a demandé hier de suspendre l'utilisation de cette arme. La France insoumise s'apprête de son côté à déposer une proposition de loi et réclame une commission d'enquête parlementaire. Hugo Bernalicis, député du Nord, interrogé par Laurent Sénéchal.
On pense clairement qu'en termes de technique de maintien de l'ordre, il faut se passer de ces outils-là qui d'ailleurs ne sont pas utilisés par nos voisins. Est-ce que dans les manifestations qui ont lieu en Allemagne ou en Belgique, où ils n'utilisent pas le LBD, est-ce qu'ils utilisent des armes plus dangereuses? Est-ce qu'il y a des blessés et des morts? Non. Donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres technique possible de maintien de l'ordre, ces lanceurs de balles de défense éborgnent les gens. Il y a des mutilations, il y a des gens qui perdent leur œil. Et on en voit d'ailleurs un usage complètement disproportionné dans le cadre des mobilisations et des manifestations actuelles des Gilets jaunes, avec le cas tragique, hein, il faut le dire, dramatique, de ce pompier réserviste à Bordeaux, aujourd'hui placé dans un coma artificiel. Ce n'est pas acceptable.
Et le pompier volontaire justement blessé à Bordeaux est sorti du coma hier. La police des polices a été saisie.
Avant les manifestations de demain, il est 7h04. Place Agnès aujourd'hui à l'acte 2 du grand débat.
Emmanuel Macron attendu à Souillac dans le Lot, à quelques kilomètres de la Dordogne. La petite commune de 3750 habitants est bouclée depuis hier. Le marché ce matin n'aura pas lieu sous la magnifique halle, classée monument historique. Toutes les manifestations ont d'ailleurs été annulées. 600 élus venus des 13 départements de la région Occitanie sont attendu. Et c'est le maire sans étiquette de Souillac, Jean-Michel Sansfourche, qui jouera les maîtres de cérémonie. Il a déjà listé les sujets prioritaires.
Injustice fiscale. l'ISF. Alors je sais que le président Macron, il a fait des promesses, donc il pourra pas trop y revenir. Mais je pense qu'il a laissé entendre qu'il peut peut-être faire des petits gestes de façon à ce que les gens de la base, les gens qui sont en souffrance, se rendent compte que quand même, on déplace un petit peu le curseur vers eux. Ça, c'est une première chose. Ensuite, faites un geste pour les retraités. La CSG, l'augmentation de la CSG. Arrêtez-la, quoi. Il n'est pas normal que des gens qui ont cotisé toute leur vie et tout, qui le 20 du mois, se posent la question de dire comment arriver à vivre. La CSG, ils sont impactés. Donc, les permettront d'avoir une retraite digne et sereine. Donc, je pense que ça, il peut l'entendre. Voilà. Et ensuite, dernière chose que je demanderai, dans une question d'équité. La bonne nouvelle, c'était l'exonération de la taxe d'habitation. Mais que cette taxe d'habitation, elle soit pour la totalité des gens. Équité fiscale.
Propos recueillis par Stéphane Iglesis et en plein débat, le geste des sociétés d'autoroutes hier. Si les tarifs des péages vont bien augmenter de 1,8% au 1er février prochain, les tarifs vont baisser de 30% pour ceux qui font 10 fois le même aller-retour par mois. La mesure devrait bénéficier à 1 million d'automobilistes.
Et le PS, Agnès, le PS tourne définitivement la page Solferino.
C'est désormais un bâtiment tout en transparence avec Rooftop qui accueille le siège du Parti Socialiste. Inauguration donc aujourd'hui et vœux à la presse d'Olivier Faure. 1500 mètres carrés sur 4 étages, seul hic, Laurence Perron, sa situation, Ivry-sur-Seine.
C'est loin, diront les irréductibles parisiens. Alors oui, il faut passer le périph, s'aventurer en banlieue rouge. Ivry-sur-Seine est toujours communiste. C'est loin, mais c'est beau. On entre par une rue au nom imprononçable.
Le siège social est en fait déposé rue Vendue, puisque l'entrée est rue Vendue.
Visite guidée par le premier secrétaire du parti, Olivier Faure.
Donc on arrivera effectivement par rue Vendue, par un portail qui est un portail en vert, avec une belle station de Jaurès. On descend les escaliers, on arrive sur un rez-de-jardin, et puis on tombe sur un espace de coworking. On monte dans les étages, donc là, les permanents, et puis au premier étage, il y a l'espace du premier secrétaire, et l'étage supérieur, pourront venir associations, ONG, qui souhaitent trouver un lieu et que nous prêterons gracieusement. En fait, ça doit être une ruche ici. Vous l'aurez remarqué, tout est transparent, il n'y a pas un seul mur opaque dans cette maison.
Alors, puisqu'on est dans la transparence, puisque Ségolène Royal vient de jeter l'éponge, le patron du PS va-t-il être contraint de mener lui-même la liste aux européennes. On reste là dans le brouillard. Les socialistes tentent de retarder l'épreuve de vérité.
Très contestée par le monde judiciaire et l'opposition de droite comme de gauche, la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance a été de nouveau validée cette nuit à l'Assemblée dans un hémicycle quasiment désert. 15 voix pour, 7 contre et une abstention. L'actualité judiciaire encore avec Alexandre Benalla en garde à vue depuis hier matin. L'ex-chargé de mission de l'Élysée doit s'expliquer sur l'utilisation des passeports diplomatiques après son limogeage l'été dernier. Et puis le rappeur parisien MHD a été placé en détention provisoire hier soir, poursuivi pour homicide volontaire 6 mois après une bagarre mortelle entre bandes rivales. MHD, de son vrai nom Mohamed Silla, nie catégoriquement toute implication dans cette rixe. Son avocate va faire appel de ce placement en détention.
7h08, direction le Soudan à présent.
Où depuis un mois, presque tous les jours, la population dénonce la hausse des prix du pain et des médicaments, un mouvement sévèrement réprimé. Hier encore, la police soudanaise a dispersé à de gaz lacrymogène des manifestants qui marchaient vers le palais présidentiel. Car c'est bien l'homme fort du pays, Omar El-Béchir, au pouvoir depuis 1989, qui est aujourd'hui pointé du doigt. Olivier Poujade.
Omar El-Béchir n'a jamais envisagé autre chose que la répression pour répondre aux différentes vagues de contestation ces dernières années. 2013, 2016, 2017, à chaque fois la sécurité soudanaise a violemment balayé les populations. Aucun changement dans la méthode pour disperser les manifestants depuis un mois. Tir à balles réelles entre 24 et 40 morts selon les observateurs, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme se dit préoccupé par cet usage excessif de la force. Mais contrairement aux années précédentes, le mouvement ne faiblit pas. D'après Clément Dehé, spécialiste du Soudan et anthropologue à l'Université de Paris 8, même si près d'un millier de manifestants sont aujourd'hui en prison, c'est l'appareil sécuritaire d'Omar El-Béchir qui montre des signes d'essoufflement.
Il y a des rapports du terrain qui montrent que les informateurs locaux dans les quartiers, les gens qui travaillent localement dans les quartiers pour les services de sécurité ne font plus leur travail car ils ne sont plus payés. Et donc les services de sécurité aujourd'hui n'ont plus les moyens financiers mais aussi humains de réprimer cette contestation.
Au Soudan, la crise économique touche désormais le cœur du système et Omar el-Béchir se retrouve dans une situation inédite après 30 ans de pouvoir. La fronde a jailli cette fois-ci d'une région plutôt aisée et plutôt favorable jusqu'ici à son régime.
21 morts, 68 blessés, c'est le lourd bilan d'un attentat contre la principale école de police de Bogota. La capitale colombienne n'avait pas connu pareille violence depuis plus de 15 ans. L'acte n'a pas été revendiqué.
Et il est 7h10 après le dépistage organisé du cancer du sein. Voici Agnès, le dépistage du cancer du col de l'utérus.
3000 nouveaux cas et plus de 1000 décès chaque année en France. Les lésions peuvent être traitées si elles sont dépistées suffisamment tôt. D'où cette campagne, destination des femmes de 25 à 65 ans, pour inciter à un frottis tous les 3 ans, car Véronique Julia, 40% d'entre elles ne le font pas.
Aujourd'hui, près de 7 millions de femmes sur les 17 millions concernées de 25 à 65 ans ne font pas ce frottis recommandé au moins tous les 3 ans. En général, ces femmes ne vont pas régulièrement chez le gynécologue. Après 50 ans, certaines pensent même à tort qu'elles n'en ont plus besoin. 50% des femmes entre 50 et 65 ans d'ailleurs ne se font pas dépister. Le cancer du col de l'utérus étant souvent diagnostiqué tard, faute de symptômes, le frottis permet justement de détecter d'éventuelles lésions précancéreuses 10 à 15 ans avant qu'un cancer se déclare. Christine Bergeron est la vice-présidente de la Société française de colposcopie.
Quand on regarde les données des cancers qu'on a encore en France, puisqu'on a toujours 3000 cancers par an, dont 1000 décès, eh bien, dans 70% des cas, c'est bien des femmes qui n'ont jamais eu de test. Donc c'est là-dessus où il faut vraiment mettre l'énergie.
Les femmes qui n'auront pas fait de frottis depuis 3 ans vont recevoir d'ici un mois un premier courrier les incitant à se rapprocher de leur gynéco, de leur généraliste ou d'une sage-femme. Comme il s'agit d'un dépistage organisé, l'examen est pris en charge à 100%. Objectif, réduire l'incidence et la mortalité de ce cancer de 30%. Il y a urgence car c'est un cancer dont le diagnostic se dégrade avec un taux de survie à 5 ans de 62% aujourd'hui contre 68% il y a 25 ans. L'âge moyen du décès étant aujourd'hui de 64 ans.
Il est revenu, le maître du hand hexagonal Nicolas Karabatic, éloigné des terrains depuis 3 mois pour cause de blessure, a rejoué hier soir pour clore le premier tour du mondial de hand qui s'est conclu par une victoire face à la Russie, 23 à 22. Retour concluant donc, même si le grand frère des experts a encore besoin de temps, Jean-Pierre Blimeau.
Nicolas Karabatic est encore loin de son meilleur niveau, mais le sourire qu'il affiche devant les micros quelques minutes seulement après le match en dit long. Il pensait rater ce mondial, il est revenu et même beaucoup plus tôt que prévu contre les Russes. Il s'agissait surtout de reprendre contact avec la haute compétition. Mission plutôt accomplie, Nicolas Karabatic.
On savait que c'était un match sans enjeu, donc c'était parfait pour moi pour m'acclimater sans pression, presque comme un match de pré-saison, quoi, un match amical. Ça m'a permis de jouer, d'avoir un petit peu de temps de jeu et je savais que je ne jouerais pas plus de 10-15 minutes par mi-temps, donc c'était parfait. J'ai pu prendre des sensations, rentrer dans ces championnats du monde et voir à quoi ça ressemble.
Même s'il n'a pas marqué, Nicolas Karabatic s'est montré très actif pendant les 26 minutes et 34 secondes où il a revêtu enfin le maillot de l'équipe de France. N'en demande N'en pas plus, tempère le directeur technique national Philippe Banard.
Ce qui est bien, c'est qu'il a pris du rythme, qu'il s'y est remis, ça va monter vite. On savait que ce serait vers la fin qu'on pourrait peut-être l'avoir. Voilà, on est dans ce truc-là, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'angoisse, il n'y avait pas une surattente, c'est pas un surhomme non plus, il ne faut pas exagérer.
Nicolas Karabatic, 34 ans, toujours ému de porter le maillot des experts, n'aura pas le temps de beaucoup récupérer car se profile déjà dès demain le début du deuxième tour face à l'Espagne. Berlin, Jean-Pierre Blimeau, France Inter.
Oui, face à l'Espagne demain, puis dimanche contre l'Islande et mercredi contre la Croatie.